Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Daniel, ta gueule. On va commencer.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma, sorti de sa torpeur estivale et de ce beau mois passé à se rouler allègrement dans les travées les plus richement fournies de sa petite vidéothèque personnelle et prêt à attaquer la rentrée avec toute la vigueur qu'elle requiert, à ceci près qu'on va d'abord prendre le temps de revenir sur un film sorti il y a quelques semaines, Mission Impossible Rogue Nation, cinquième volet des aventures de l'espion Ethan Hunt et de ses petits camarades, l'occasion pour nous de remonter le fil de cette franchise attachante, pleine de défauts certes mais riche en qualité aussi. Pour parler de tout ça autour de la table, trois volontaires pour cette mission, Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Alexandre Arnaud, salut Alex.
Salut.
Et David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et le public autour de nous ici autant qu'à laisser nos ciné, épisode 17, c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'est quand même avec une petite joie toute adolescente qu'on accueille à chaque fois les nouvelles aventures de la petite bande de l'IMF, l'Impossible Mission Force, les espions de l'extrême, le plus fameux étant Ethan Hunt, c'est-à-dire Tom Cruise, entouré par un cast de choix comprenant Simon Pegg, Jeremy Renner, Alec Baldwin chez les garçons et Rebecca Ferguson et, je prends ma respiration, Jingsu Zhang chez les filles. Pour ce nouvel épisode, l'IMF se fait dissoudre carrément, ce qui n'empêche pas ses membres les plus motivés de poursuivre leur traque du syndicat, une bande de méchants espions devenus des criminels internationaux, le tout sous la caméra de Christopher McQuarrie, collaborateur de longue date de Bryan Singer, notamment sur Usual Suspects, et à qui on doit, entre autres, le film Jack Reacher.
Ethan ?
Benji ! Open the door ! Open the door !
Yeah, I'm trying.
Oh my god !
Et comme toujours, ça tape un peu niveau effet sonore et visuel. Nos trois camarades autour de la table ont vu Rogue Nation, mais qu'en ont-ils pensé, Alexandre ?
Ah, c'est moi qui ouvre les hostilités.
Ouais, c'est toi.
Moi, je vais être extrêmement favorable parce que, bon, je partais déjà conquis avec la bande-annonce, avec le CV déjà du réalisateur, Christopher McQuarrie, qui est donc, comme tu l'as dit, réalisateur de Jack Reacher, le précédent film d'action avec Tom Cruise, que j'avais trouvé très cool, un bon thriller, avec un Werner Herzog en vilain qui était assez mémorable. Il avait aussi fait d'autres choses, notamment tu l'as dit, les scénarios avec Singer, mais aussi des petits polars, notamment Way of the Gun, qui était pas mal du tout. Donc niveau CV, j'étais assez conquis d'avance et pas déçu par le résultat. Je pense qu'il y a quelques scènes d'action assez anthologiques dedans, notamment toute la scène à l'opéra de Vienne qui est assez virtuose en termes de mise en place, en termes de gestion de plein d'éléments. Voilà, c'est pas la première scène de la franchise qui met en place plein de personnages dans des endroits différents qui communiquent via les oreillettes, etc. Mais il y a un savoir-faire dedans qui est assez indéniable. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est surtout que on n'a pas trop l'impression, même pas du tout l'impression, que c'est un baroud d'honneur de Tom Cruise, etc., etc. Il n'y a pas ce côté vieux de la vieille à la Expendables. Tom Cruise qui a 50 piges bien tassées maintenant, je ne sais plus quel âge exactement il a, fait encore le job. On a parlé ad nauseam de ces cascades qu'il effectue lui-même, notamment celle sur la scène de l'avion qu'au début du film
qu'on voit dans la bande-annonce
et qu'on voit dans la bande-annonce à tir l'arigot. Donc moi je suis assez content du film et je pensais que ça pouvait être une façon pour lui de passer un peu la main, même si au bout d'un moment on peut pas toujours refiler les franchises à Jeremy Renner, parce qu'après Bond ça ferait beaucoup, mais je pensais qu'il allait un peu s'effacer, et même s'il s'efface un petit peu, c'est-à-dire que dans le sens où ses collègues ont vraiment sont pas uniquement des sidekicks, ils ont un rôle à jouer assez important, et en fait non, ça reste quand même un cruise show, et ça fait le job, donc tant mieux pourvu que ça dure.
David ?
Moi je suis plus partagé, enfin je dirais que j'aime à moitié le film parce que j'aime la moitié du film en fait.
C'est plus simple.
Et comme ça au moins c'est simple.
En fait je trouve que ça démarre.
Quelle moitié alors ?
Que la première moitié en
le
fait, ça démarre très bien, et puis bon, on a un climax dans une scène en apnée incroyable. En gros, il doit plonger pour aller récupérer une clé USB secrète au fond d'un trou au Maroc. Et alors il paraît que Tom Cruise a dû s'entraîner pour rester en apnée 6 minutes, alors que dans le film il doit tenir que 3 minutes. Donc en fait Tom Cruise est encore plus fort,
qu'Ethan Hunt.
Donc c'est assez incroyable. Et cette scène est assez réussie. Donc on est sous l'eau, il y a un plan séquence tourbillonnant. Voilà, qui est pour moi vraiment le sommet du film. Il y a encore une petite scène après ça, de poursuite en moto qui est pas mal. Et après, le film, pour moi, j'ai complètement décroché. Ça ne m'intéresse plus du tout. C'est des petits rebondissements de masques sous les masques. Enfin, un peu moins que dans l'épisode de J.J. Abrams. Mais voilà, après, c'est une ficelle de la saga, mais qui, je pense, là, est exploitée de manière soporifique. Et voilà, donc évidemment, dans la première partie, il y a cette scène Hitchcockienne à l'Opéra de Vienne où on nous refait une variation sur le coup de la cymbale de l'homme qui en savait trop. Et ce qui ressort admirablement, je trouve, de cette première partie du film, c'est quand même un sidekick, c'est Rebecca Ferguson.
Ah oui.
Ouais. Qui est une révélation, de ce film.
Oh oui, encore plus dégueulasse. Avec ça. Merci.
Non, mais c'est son jeu qui.
Et qui est une héroïne qui, contrairement à Bryce Dallas Howard dans Jurassic World, enlève ses talons
pour courir,
pour faire des cascades.
C'est tellement belle scène.
C'est déjà bien.
Et elle est exceptionnelle dans le film. Enfin, voilà, j'ai envie de la revoir elle. Bientôt.
Oui, je pense qu'on pourrait carrément filer la franchise à une femme. Déjà, ce serait une très belle action. Et puis, à elle, les yeux fermés.
Et vous avez raison, c'est vraiment ce qui se passe de mieux dans ce film. C'est son rôle prédominant.
C'est le moment où elle enlève ses chaussures.
Elle enlève ses chaussures, c'est tellement sexy. Mais surtout, elle se fait pas complètement vampiriser par Tom Cruise. Et c'est très dur pour une femme d'exister face à un monstre comme Tom Cruise Il a 52 piges, il monte ses tétons comme s'il en avait 30 et il s'impose à tous les plans. Et il y a Mission Impossible sert à faire entretenir le mythe de Tom Cruise, parce que Tom Cruise il a fait ça parce qu'il pouvait pas avoir James Bond, alors il s'est dit je vais faire mon propre truc d'espionnage. Mission Impossible n'a presque plus rien à voir avec la série télé originelle. Dans celui-là, on sent qu'il est complètement dans la référence des autres films. C'est vraiment du clin d'œil permanent avec les autres films, et il se passe quelque chose d'intéressant là-dessus. Simon Pegg, par exemple, a un rôle tellement plus important. Plus je vois Simon Pegg, plus mieux je me porte. Donc, c'est vraiment, il se passe des choses, et en même temps, c'est un film qui n'a aucune ambition. C'est vraiment du blockbuster pour le blockbuster. Il arrive à une saison un peu difficile parce qu'il y a eu Mad Max qui est passé devant et qui a expliqué à tout le monde qu'il fallait faire des trucs réalistes et pas que de l'image de synthèse. Et il s'en sort vraiment mieux que et Terminator et Jurassic Park parce qu'il a cette espèce de patate. Alors, c'est même pas le meilleur Mission Impossible, mais je crois qu'on se suffira de ça.
Bon bah très bien, Mission Impossible Rogue Nation, c'est toujours au cinéma, et si vous n'avez pas claqué tous vos sous pendant les vacances, profitez-en, ça vaut le coup.
Bonjour, Jim.
Attends, tu peux conduire? Il y a une minute, t'étais mort.
Votre mission, que je vous conseille vivement d'accepter, sera de trouver la personne qui a monté ce scénario et de l'arrêter.
Dans la grande vague d'adaptations de séries télé des 60s et 70s qui a connu le ciné hollywoodien il y a une petite dizaine d'années, une seule finalement aura survécu aux outrages du temps, c'est Mission Impossible, peut-être parce que dès le début ils ont misé sur de véritables réalisateurs, puisque rappelons que les 4 premiers épisodes ont été signés dans l'ordre par Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams et Brad Bird. On a connu pire, bon la musique parfois pêchait un peu mais ça fait aussi partie du charme.
J'aurais tellement aimé les voir au
Hellfest. C'est tellement bien. Limp Bizkit, toute une époque. Alors, quelqu'un a des nouvelles de Fred Durst autour de la table? Non, personne, c'est dommage. Bref, la franchise Mission Impossible, quel regard porter sur tout ça aujourd'hui, David?
La franchise.
Tu vas parler de Brian De Palma, je sens, David.
La franchise. Alors, Brian De Palma, enfin, pour moi, il y a clairement dans la saga, il y a un film et puis.
Et puis derrière autre.
Des trucs qui essayent un peu de ressembler à quelque chose. Jamais aucun des films suivants n'est arrivé au niveau du film de Brian De Palma. J'aurais presque tendance à dire que c'est une franchise qui est en déclin permanent, parce que moi j'aime beaucoup l'épisode de John Woo.
Oh là, il va y avoir un débat.
Et que j'aime parce que en fait John Woo ne s'efface pas. Derrière la franchise.
Oui, mais c'est autoparodie.
Et fait du John Woo, peut-être de l'autoparodie, mais pour moi, un point où c'est complètement jouissif, quand Tom Cruise met un coup de pied dans le sable pour faire sauter le, le flingue quand les colombes s'envolent. je trouve ça beaucoup plus plaisant que l'épisode hyper austère de J.J. Abrams, dont j'ai, je pense, quasiment aucun souvenir.
Eh bien, écoute, moi, c'est celui pour lequel j'ai pas mal d'affection, en fait. Ouais. Parce que, bon, j'étais un peu déçu et par le De Palma et par le John Woo. Et le J.J. Abrams, d'abord, il a imposé un méchant absolument dantesque avec Philip Seymour Hoffman. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qui c'est ce... Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un vrai jeu de personnages, puisque Tom Cruise va jouer Philip Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman va jouer Tom Cruise, et Tom Cruise va jouer Tom Cruise. Ça atteint un niveau absolument démentiel de la folie de Tom Cruise. Oui. Ce mec est complètement fou, il passe son temps à écrire sa légende. Et à un moment, Tom Cruise arrive à même surjouer le coma. Enfin, il surjoue la mort. Ce mec c'est pour ça que j'adore le troisième. Il n'a aucun sens et c'est pour ça que je l'adore.
Alexandre.
Le troisième, c'est surtout en plus le film qui a relancé la franchise parce qu'il n'y avait pas eu de Mission Impossible depuis 6 ans. Parce que Mission Impossible 2, si ma mémoire est bonne, c'est 2000. Et Mission Impossible 3, c'est le film du renouveau parce que c'est l'arrivée aux manettes de J.J. Abrams, pas seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur. Il a pris en charge en partie la production de tous les volets qui ont suivi. Et ce qui est important, c'est que les deux premières Missions Impossibles, moi j'ai une tendresse évidemment pour le premier de De Palma et celui de John Woo, par contre je le supporte de moins en moins avec les années, mais les deux premières Missions Impossibles sont sorties avant la franchise Bourne, donc Jason Bourne, et avant le renouveau de James Bond avec Casino Royale et les versions de Daniel Craig. Et quand on revoit les deux premiers James Bond, par rapport à la concurrence qui s'est installée ensuite, c'est vrai que ça fait un peu autre temps, autre mœurs. Mission Impossible 3 commence à marcher un peu sur les plates-bandes, notamment en termes de mise en scène des Bourne réalisées par Paul Greengrass avec une caméra qui, sans verser dans la shaky cam et dans le montage épileptique, arrive à donner vraiment une dynamique à l'action, etc. Et ensuite, je pense que, sans aller dire jusqu'à que ça donne la dragée haute au dernier Bond, notamment Skyfall, je trouve que Brad Bird a fait un travail assez exceptionnel sur Ghost Protocol, avec une gestion des scènes d'action assez admirable. Toute la scène en Russie de l'introduction est vraiment hyper bien chorégraphiée, hyper bien maîtrisée. Et pour moi, je suis pas d'accord avec David dans le sens où pour moi c'est pas une franchise qui s'essouffle, c'est au contraire une franchise qui évolue en permanence, qui s'adapte au cinéma d'action contemporain et qui n'a pas à rougir, on va dire, de ce qu'elle propose par rapport à ce que fait la concurrence.
David.
Ouais, je pense aussi que J.J. Abrams effectivement a fait changer, a fait passer la franchise dans une autre dimension. En fait, l'a finalement rapproché de la télévision. Et donc on est avec les derniers opus qui sont, pour moi, ressemblent plus à des gros épisodes de série télé.
En même temps, la base c'est une série télé. Donc.
Et oui, mais alors, plus la même série télé.
Oui,
on est dans autre chose. Et alors que justement ce qu'avait fait De Palma, c'était vraiment de l'arracher à la télé pour l'emmener dans le cinéma. Et voilà, moi ça m'intéresse beaucoup. Moi je trouve que c'est des films qui sont, concernant le dernier, pas déplaisants, mais qui ne me marquent pas, qui ne produisent pas d'images pour moi marquantes. Même celui de Brad Bird où il y a des passages d'anthologie, la scène de vertige dans l'immeuble géant. Au-delà de ça, je retiens très peu de choses, et c'est aussi je trouve des films qui parfois se complaisent un petit peu dans l'obscurité. C'est ce que je reproche aussi à la fin du 5, dans un truc un peu, au bout d'un moment, plus rien n'est lisible, on comprend rien, et ça tombe bien parce que ça permet de clore des scénarios qui sont sans queue ni tête. Enfin, c'est quand
même... ressemble toujours, en fait, les scénarios, quand on fait gaffe, c'est toujours un traître.
Les mêmes rebondissements.
C'est toujours l'organisation qui se fait démanteler.
Voilà.
Ils sont contre
il faut aller récupérer l'establishment. Une clé USB, et puis voilà. Mais du coup, quand la saga permet de produire des séquences, je trouve, très lumineuses, très intelligentes dans la manière de mettre en place la problématique et comment on va accomplir une mission impossible, là c'est intéressant. Quand quand en fait pour aborder le Premier ministre il suffit de mettre un masque, ça m'intéresse pas trop.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on disait sur De Palma qui s'était éloigné de la série télé, il s'était éloigné à tel point que moi je me souviens ce qui m'avait énormément choqué quand j'avais vu en salle à sa sortie en 96 le premier Mission Impossible, c'est que je regardais les rediffs des épisodes aussi bien de la première version de la série Mission Impossible que du Revival 80s avec Peter Graves dans le rôle culte de Jim Phelps, donc le chef de l'équipe Mission Impossible, et ce qu'ils avaient osé faire à l'époque c'était quand même d'en faire le méchant, et d'ailleurs tous les membres originels de l'équipe du casting original de la série avaient daubé dessus, les fans de la série étaient quand même hyper vénères aussi à l'époque et on les comprend.
Ouais, il faut pas toucher au doudou transitionnel.
Mais c'était complètement fou, c'était on se rend pas compte maintenant, mais en termes de trahison de l'esprit, du matériau, des personnages d'origine, ils avaient osé faire un truc dans le script de Mission Impossible 1 qui était de rendre en ultra méchant le gars sempiternel gentil de la série, et à l'époque moi ça m'avait fait chier parce que je regardais la série, mais maintenant je trouve que c'est une idée a posteriori géniale, et heureusement parce que bon bah maintenant comme vous le disiez, comme on disait tout à l'heure, il y a plus vraiment de signes avec la série originale à part le thème de la Lalochifrine et le message s'autodétruira dans 5 secondes.
Les 4 premiers Missions Impossibles, ça se trouve sans trop de problèmes en DVD, Blu-ray et en VOD, et ça vaut le coup même avec Limp Bizkit. Et oui, pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun pour convaincre, même peut-être plutôt 1 minute. On reste dans le film d'espionnage si possible, dans les adaptations de séries télé, encore dans la filmo de Tom Cruise, Daniel par exemple.
Ah, alors écoute, pour une fois là, je vais faire l'impasse sur Tom Cruise. Ah. Je vais parler de Spy qui m'a vraiment tapé dans l'œil cet été. C'est une comédie délirante et vraiment dans le ton de ce qu'on pourrait. C'est un mélange entre Apatow et du pastiche et du pastiche de d'espionnage. Ça va très loin. Je vous conseille d'y aller vraiment sans vous renseigner sur ce qui se passe. Il y a des punchlines. C'est tout ce qu'on veut avoir sur du cinéma rigolo. Il y a Melissa McCarthy. Enfin vraiment.
Il y a Jason Statham.
Ultime. Au bout de l'autoparodie, quoi. Enfin, il est encore mieux que dans Transporteur, si on peut admettre qu'on peut faire mieux que Transporteur. Non, c'est vraiment du cinéma débile et vraiment réjouissant. Je vous recommande d'aller le voir sans retenue.
Alexandre.
Alors, tu parlais d'adaptation de série télé. Moi, ma recommandation, elle date pas d'hier. C'est pas un film tout récent, mais c'est L'Agence Twisque version Joe Carnahan. Et d'ailleurs, Joe Carnahan qui devait initialement réaliser Mission Impossible 3 avant que J.J. Abrams en prenne les rênes. L'Agence Twisque, c'est un film qui est pas resté vraiment à la postérité. J'entends personne en parler régulièrement. Le film n'a pas eu de suite, etc. Alors qu'en fait, il était hyper cool comme film d'action.
Il y a des punchlines géniales.
Punchlines de fou. Liam Neeson en Hannibal est merveilleux. Sa scène d'introduction, son introduction dans le film est complètement jouissive. T'as tout un casting très chouette autour de lui, notamment Bradley Cooper en Looping. Et c'est vraiment l'exemple typique de l'adaptation qui, contrairement au premier Mission Impossible, donc, ne démolit pas complètement la mythologie du matériau de base, le respecte, mais en l'amenant évidemment à des stratosphères blockbusteriennes. Et ça reste un très bon moment avec des scènes d'action absurdes. Bien avant le Fast and Furious 7 avec ses voitures lâchées d'un avion en plein vol, il y avait la même chose mais avec un tank dans
un tank qui ralentit sa chute en tirant.
C'était
absolument débile.
C'était complètement absurde. Donc je recommande The A-Team de Joe Carnahan.
David, pour finir.
Et moi, du coup, je vais parler d'un truc qui a pas forcément grand chose à voir, qui est pas tout nouveau non plus, mais c'est.
C'est quoi,
Citizen Kane? Non, en fait, c'est quand Daniel parlait tout à l'heure du numéro de Philip Seymour Hoffman et Tom Cruise dans le Mission Impossible de J.J. Abrams, et la performance d'un acteur qui joue un autre, en fait, qui se fait passer pour quelqu'un, ça me fait penser à une série dont on n'entend pas tant parler que ça. C'est Orphan Black, qui, je crois, est sa saison 3 maintenant. Et dans laquelle l'actrice principale Tatiana Maslany fait un numéro extraordinaire. En fait, elle joue plusieurs clones. Et il arrive dans la série que elle joue un clone qui se fait passer pour un autre clone, etc. Et c'est pour moi une des meilleures performances d'actrice à l'heure actuelle. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on la reconnaît tout le temps. On sait quel clone elle est en train de faire, qui se fait passer pour un autre clone, qui se fait passer pour un clone. c'est voilà une forme d'infiltration, d'espionnage, ça n'a rien à voir, mais c'est ma recommandation.
Un petit peu quand même. Merci à tous les trois, notre temps est écoulé, merci à Alain, à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on parlera d'une série et d'un film qui porte le même nom, Wet Hot American Summer, un gros morceau de l'humour ricain débarqué récemment sur Netflix. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur Terminator Genisys, sur Jurassic World et nos vidéoclubs de l'été sur Christopher Lee, John Carpenter, William Friedkin, Tony Scott et Brian De Palma dont on parlait tout à l'heure. Et puis laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Ce message s'autodétruira dans 5 secondes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.